Diana Bandium, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi dites-vous que le féminisme, c'est un engagement patriotique ?
Ah, parce que je pense que dans une société où les règles du jeu ne sont pas équitables, où le système social qui régit tout le monde ne met pas tout le monde au même pied d'égalité, le féminisme devient un engagement. Parce qu'en fait, quand ton système est patriarcal, c'est qu'il y a forcément des personnes qui sont lésées.
Et l'un des gros problèmes que vous rencontrez dans ce que vous appelez ce système patriarcal, c'est le vide juridique, dites-vous. Dans quel domaine notamment ?
Notamment sur les questions des violences faites aux femmes et aux filles. On a l'État mauritanien qui a mis des institutions en place pour cela. Il y a par exemple un observatoire de l'égalité genre au niveau de l'université de Nouakchott. Mais pour moi, c'est un non-sens d'avoir toutes ces institutions qui sont là, mais qu'on n'ait pas un instrument juridique qui permet de réguler tout cela.
C'est-à-dire que le pouvoir mauritanien encourage les associations de défense des femmes, mais ne fait pas voter de loi contre les auteurs de violences faites aux femmes ?
Absolument, je le dis parce que, pourquoi je le dis ça? Parce qu'on a des mouvements d'obédience religieuse et parce qu'on a des personnes très réfractaires à tout ce qui est émancipation de la femme qui ont fait une campagne d'intoxication sur ce projet de loi pour au final qu'on ait des sittings et des marches des personnes qui n'ont par ailleurs jamais visité le projet de loi, ne savent pas de quoi ça parle et puis voilà. Donc le gouvernement fait une machine arrière. Alors à chaque fois que ce projet de loi revient à la surface, à chaque fois il y a aussi les réfractaires qui reviennent en surface et je pense que dernièrement, on a assisté à des fatwas dans des mosquées où les gens demandaient aux musulmans en fait, de sortir, manifester, parce que tout simplement, il y a une loi qui est là, qui essaye de pervertir la société, qui essaye de pervertir nos femmes, qui ceci, cela, mais vraiment une intoxication très forte. Et les gens sont sortis manifester. Et c'est comme ça, en fait, que voilà, les gens sont contre la loi. Mais personne ne saurait te dire ce que dit la loi.
Et donc, le pouvoir n'ose pas faire passer à l'Assemblée nationale une loi contre les auteurs de violences et de harcèlement sexuel.
C'est comme ça que je le perçois, oui.
Est-ce qu'il y a des pays d'Afrique de l'Ouest où on a une idée du pourcentage des femmes victimes de violences ?
Je pense qu'il y a beaucoup de pays déjà, contrairement à la Mauritanie, qui ont même déjà des lois sur les violences basées sur le genre. Hein. Je peux citer la Côte d'Ivoire, le Togo, entre autres, même si toujours la question de la mise en œuvre du respect des lois reste aussi une autre paire de manches. C'est toute autre chose. Mais la question des données pose problème, pas qu'en Mauritanie, mais un peu partout au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que c'est ce qui a d'ailleurs nourri un plaidoyer au sein de, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest francophone, où des organisations féministes se sont levées pour porter un plaidoyer pour qu'il y ait des statistiques chiffrées sur les violences sexuelles et sexistes.
Pour qu'on prenne conscience de l'importance du phénomène.
Hein. Absolument.
Parce que pour l'instant, ces violences sont méconnues par beaucoup de gens. Hein.
Oui, oui, parce que mine de rien, quelque chose comme l'harcèlement, par exemple, ou les violences verbales, entre autres, ne sont pas comptabilisées comme étant des violences.
Alors des fois, Diana Bandium, il y a vide juridique, il n'y a pas de loi. Et d'autres fois, il y a une loi, mais elle est discriminatoire, dites-vous, dans quel domaine, par exemple ?
Alors, forcément, nos lois aussi sont des lois pensées, mises en place sous le prisme du patriarcat. Du coup, on se retrouve avec des pays comme par exemple en Mauritanie ou au Sénégal, et je sais qu'on n'est pas les seuls dans la région, beaucoup de pays, où l'autorité parentale est exclusive au père, en fait. Donc, seul le père a une autorité parentale sur son enfant. Je m'explique. Un couple a un enfant, mais si le père décide de voyager avec, par exemple, l'enfant ou les enfants, ça ne pose aucun problème. Ça ne nécessite même pas qu'il y ait autorisation de la mère. Alors que la maman, elle ou la mère, si elle décide de voyager avec ses propres enfants, il lui faut une autorisation du père, alors que le père n'en a pas besoin. Et donc, comme ça, on se retrouve avec des cas comme pas possible, quoi. Surtout quand il y a divorce, surtout quand il y a des problèmes au niveau du couple, entre autres, et que le père peut facilement partir avec ses enfants.
Vous dites, Diana Bandium, qu'il y a des pays où maintenant les féministes sont diabolisées. Pourquoi ?
Je pense qu'est-ce qu'il y a un pays où les féministes ne sont pas diabolisées, ça m'étonnerait déjà. Mais prenez la Tunisie qui était pour nous, par exemple, un pays vraiment très en avance sur les droits des femmes, avec les lois révolutionnaires qu'avait, par exemple, pris Bourguiba sur certaines choses. Aujourd'hui, c'est comme si on régressait en Tunisie. Moi, j'ai rencontré des amies féministes tunisiennes qui, aujourd'hui, ont du mal à prendre la parole dans des espaces féministes, à être filmées, à parler, parce que tout simplement, en fait, ils sont confrontés à leur régime, en fait, qui est de plus en plus réfractaire aux droits des femmes.
Et vous dites qu'il y a des pays où les féministes sont amalgamées aux partis de l'étranger et aux influences occidentales. Est-ce que c'est un phénomène qui se développe ?
Oui, des depuis toujours. Moi, je pense que le discours féministe, malheureusement, n'est pas très écouté, très connu, parce que quand je parle de nos systèmes patriarcales, les hommes ont le privilège. Et donc, quand ils voient qu'on remet en cause certaines choses, qu'on veut plus d'égalité, qu'on veut avoir accès au travail, accès à l'éducation, l'égalité, mais vraiment dans toutes ses formes, en fait, c'est comme si, quelque part, on enlevait des privilèges aux hommes pour les donner aux femmes.
Lors de la réunion de la plateforme mondiale Women Deliver à Kigali, vous avez appelé à une protection renforcée des féministes dans un contexte de montée des mouvements conservateurs en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous avez subi personnellement des menaces ces derniers temps?
Oui, souvent ce sont les militantes féministes qui aussi sont très exposées parce que les militantes féministes n'ont pas leur langue dans leur poche, disent ce qu'ils pensent et le disent de manière publique et ça, ça gêne. Et puisque ça gêne, ce sont les premiers qui subissent les harcèlements, ce sont les premiers qui subissent la cybercriminalité, ce sont les premiers aussi qui sont soumis à des menaces de mort. Donc réfléchir à des mécanismes qui protégeraient par exemple ces féministes-là, en fait, pour moi, c'est un moyen aussi de permettre aux gens de parler et de ne pas être muselés.
Et les attaques sur Internet, le cyberharcèlement, est-ce que vous arrivez à vous protéger contre cela?
Oui, on a beaucoup d'amis féministes et je vais parler d'un cas d'une amie féministe qui est béninoise qui a vraiment été attaquée, elle et son organisation, je ne vais pas prononcer ce mot comme ça, peut-être qu'elle ne le souhaite pas, qui a été attaquée sur les réseaux sociaux, mais vraiment attaquée au vrai sens du terme, où les gens ont utilisé ses photos, utilisé les photos des membres de ces organisations, faire des pubs, les insulter, les traiter de pute, n'importe quoi en fait, mais vraiment un cyberharcèlement qui a duré un long moment. Mais nous, on a resserré les rangs, on l'a soutenue, et finalement, la féministe a porté plainte. Ça a pris le temps que ça a pris, mais au moins, il y a eu condamnation. Et ça, pour nous, c'est une énorme victoire. Et je sais qu'il y a beaucoup de féministes qui sont soumis à ces genres d'attaques, mais qui n'arrivent pas à avoir gain de cause. Certains même qui ne portent pas plainte. Mais le fait que non seulement qu'il y ait une plainte, mais le fait aussi qu'en plus du plainte qu'il y ait condamnation, pour nous, c'est une très grande victoire contre tout ce qui est la cybercriminalité ou les attaques qui sont venues par-ci, par-là, parce que tout simplement, on aborde des sujets que les gens n'aimeraient pas entendre dans la place publique.
Guéna Bandium, merci.